Vieille Radio, le magazine féminin nouvelle génération.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Marine, bienvenue dans YEG Radio, l'émission féminine nouvelle génération. En ce 12 février, à deux jours de la Saint-Valentin, on met l'érotisme à l'honneur dans une émission dédiée au monde voluptueux du plaisir et du désir. En effet, dans le numéro 22 de YEG, à lire sur yegmag.fr, je le rappelle, la rédaction s'est penchée sur les dessous du marché de l'érotisme, puisqu'il est à la mode de parler de démocratisation de l'érotisme et également de libération des femmes. On verra donc dans cette émission qu'on attendait depuis 30 ans au moins, non allez j'exagère, mais en tout cas on verra ce qu'il en est concrètement. Alors à mes côtés pour en parler, Marie Lelevier, journaliste pour YEG. Bonjour Marie.
Bonjour Marine.
Alors tu t'es intéressée au marché du plaisir à travers les sex shops.
Voilà exactement, j'ai rencontré pour YEG deux femmes qui travaillent dans des sex shops, voilà à Rennes et dans ses environs.
Très bien, on verra ce qu'elles en pensent. Avec nous également, celle qui a répondu à nos questions dans le dossier du numéro 22 de YEG, Marie-Claire Boucherie-Carlier, psychothérapeute et sexologue analyste. Bonjour Marie-Claire.
Bonjour Marine.
Merci beaucoup d'être avec nous sur Radio Campus Rennes. Le sommaire tout de suite de cette émission spéciale érotisme. On foule les allées du salon de l'érotisme qui s'est déroulé en janvier à Rennes. On passe 15 minutes avec la sexologue Marie-Claire Boucherie-Carlier. Et enfin, on pousse la porte des sex-shops rennais. Et pour démarrer cette émission, on entre dans le monde voluptueux de l'érotisme par un événement très particulier dans ce domaine. Explication. Les 18 et 19 janvier, plus de 10 000 personnes ont foulé les allées du Salon de l'érotisme qui se tenait au Parc Expo de Rennes, ou plutôt les allées d'un supermarché populaire de l'érotisme. Le Salon de l'érotisme, c'est 40 exposants de produits allant de tenues sexy aux jouets coquins en passant par les indispensables accessoires de massage, des stands qui ressemblent plus au marché aux puces de Saint-Ouen qu'à l'univers voluptueux de Pigalle, qui pourrait révéler une multitude de facettes, libérer les fantasmes et envoûter les esprit libidineux. L'objectif est de démocratiser l'érotisme et lever les tabous en mettant l'accent sur tout ce qui est artistique et sur ce qui valorise le corps féminin. C'est ce que nous a expliqué Maya Cortez, chargée de la logistique et de l'animation pour Aeropolis. Des shows artistiques donc sont présentés sur une scène grand public sur laquelle défilent stripteaseurs et stripteaseuses avant de se diriger vers une zone plus hard pour des shows individuels dans des cabines à l'abri des regards indiscrets. Maya Cortez nous a précisé toutefois que, je cite, « la majeure partie du salon est en lien avec l'érotisme, mais on sait que les visiteurs restent à l'affût de plus, ils trouvent ce qu'ils viennent chercher dans la partie plus de 18 ans. » Catch sexuel, spectacle animé par des stars du X, stand sadomaso. Dans cet espace, la pornographie prend la main sur le monde des fantasmes et le monde de la sensualité. Alors ici, tout est montré, plus rien n'est suggéré en dehors des strips, qui en moyenne aussi entre 25 et 60 euros. Ça va donc du show soft au show X sextoy. Angel fait partie de la tournée Aeropolis et pratique cet art depuis 4 ans. Pour elle, pas de vulgarité, uniquement de l'érotisme. Elle nous a dit « Ce n'est pas la classe du Crazy Horse, mais on cherche à avoir une approche sensuelle, que ce soit dans le regard, la douceur, la suggestion. On suscite l'envie avec cela, on vend du rêve. » Barbara, 27 ans, et Anaïs, 30 ans, sont venues de Saint-Malo et de Saint-Brieuc pour la deuxième année consécutive. On recherche la nouveauté, les pratiques tendances. Cela évite la monotonie et permet d'acheter des produits comme des œufs vibrants ou de la lingerie. Nous ont-elles confié sans complexe. Pourtant, elles laissent tout de même paraître une gêne quant au côté pornographique. Nous sommes là depuis 2 heures et nous n'avons pas encore vu un seul show soft. Sans être choquée, on note quand même une confusion. Sans mentionner que depuis l'an dernier, il y a de plus en plus de choses payantes. Alors le jeu en vaut-il la chandelle? En effet, il faut savoir qu'il faut compter 15 euros pour l'entrée, à laquelle se rajoutent 3,90 euros pour accéder à la zone plus de 18 ans. et encore 10 euros pour entrer dans le Théâtre X. C'est dans le Théâtre X que les visiteurs peuvent assister au tournage d'une scène porno entre deux acteurs de X, pendant laquelle les spectateurs ont le droit à des explications donc sur les prises de vue, les regards caméra, les positions, mais aussi sur le clitoris et le point G, une manière de sensibiliser les curieux autour de la sexualité. Avant de conclure, communiquer avant de niquer. Le ton n'est pas subtil, le contexte est détonnant, mais le message est assez essentiel. Alors, Marie-Claire Boucherie-Carlier, vous êtes sexologue. De votre point de vue, le salon de l'érotisme peut-il véritablement sensibiliser le public à l'érotisme ?
Alors, c'est question difficile, mais bon, je vais tenter d'y répondre. Je pense, alors je ne suis pas allée au salon de l'érotisme, hein, mais j'en entends parler quand même, même par mes patients, des fois, ça arrive. Je pense qu'on ne parle pas d'érotisme. On est plutôt dans une démarche commerciale. Bon, alors après, il y a tout à dire là-dessus, hein, mais je pense qu'on ne parle pas d'érotisme, non, du tout. Non. Du tout, du tout.
On est vraiment... Puis il y a une vraie confusion entre érotisme et pornographie.
Oui, oui, beaucoup, beaucoup. Et c'est un vrai problème. Même on confond sexualité et pornographie, hein, tout court, sans parler d'érotisme. Surtout en ce moment, quand j'entends des jeunes patients qui sont dans des problématiques... de, comment dirais-je, de complexes, parce qu'ils ont vu beaucoup, beaucoup de films X sur le net. Et donc, ben là, il y a une déformation totale. Donc, je pense que le salon de l'érotisme, comme vous l'avez bien dit juste avant, il y a aussi une grande confusion.
Il y est pour beaucoup. D'accord, on va entrer dans le vif du sujet dans un instant. On parlera plus précisément de la notion d'érotisme avec vous, Marie-Claire Boucherie-Carlier, juste après Fever, interprété par Ella Fitzgerald. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Thou givest fever when we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. Give me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever when you kiss them. Fever, if you live, you learn. Fever till you sizzle. Oh, what a lovely way to burn. Oh, what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. De la sensualité avec Ella Fitzgerald qui interprète Fever. Alors, chanson érotique ou pas, celle-là ?
Sensuelle.
Sensuelle, hein,
et
quand
érotique,
même.
Effectivement. Bah, Ella Fitzgerald, la sensualité même, la féminité. Enfin voilà, c'est intéressant de nous faire écouter cette femme parce qu'on peut enfin faire la différence, justement, dans ce que vous disiez, entre pornographie, érotisme, sexualité, sensualité. Et c'est vrai que le salon de l'érotisme est plutôt le salon de la pornographie. Il ne faut pas avoir peur des mots. Je ne sais pas pourquoi ils intitulent salon de l'érotisme.
Bah oui, oui, ça c'est bah, la question qu'on se pose. Hein. Dès qu'on sort du salon de l'érotisme, oui. Généralement, c'est ça. De toute manière, chacun un peu sa définition hein, de la chanson érotique et même de l'érotisme, puisqu'il est question quand même de sensibilité dans l'érotisme. Alors pour nous en parler, vous l'avez entendu, Marie-Claire Boucherie-Carlier. Alors vous êtes sexologue analyste, en quoi oui. consiste votre métier ?
Alors ben, moi si vous voulez, je suis d'abord et avant tout un thérapeute, hein, donc quelqu'un qui va écouter les gens qui viennent parce qu'ils sont en souffrance. Et effectivement je suis sexologue, donc les gens peuvent venir me parler de leur sexualité, de leurs soucis, de couple, leurs soucis individuels. Donc voilà, je suis psychothérapeute et sexologue, donc on peut venir parler de la sexualité chez un sexologue, c'est l'avantage, on appelle un chat, et c'est très important en matière de sexualité. Voilà.
Et alors, qui sont les personnes qui viennent vous consulter ? Est-ce que c'est majoritairement des femmes ou des hommes aussi ?
Alors, des femmes, des hommes, des couples également. Mmh. Je fais beaucoup de thérapie de couple. Donc voilà, des adultes qui sont en difficulté dans leur vie affective, émotionnelle, sensuelle et sexuelle également.
Il y a une certaine crainte autour de votre profession quand on dit une sexologue. Les gens s'en font tout un monde, ont l'impression vraiment d'avoir un problème sexuel dont il ne faudrait pas parler. Est-ce que finalement il y a une crainte importante autour de votre métier ou c'est dans l'imagerie populaire un peu cette crainte ?
Bah, y a beaucoup de fantasmes autour, ça sûrement. Mais déjà, rien que le métier de psychothérapeute, hein, les gens ont très peur souvent de faire une démarche thérapeutique, même quand ils sont en souffrance. Ils attendent souvent d'être dans des
impasses.
Oui, des impasses, dans des souffrances très très fortes. Et donc, bon, bah, ils viennent. En général, ils poussent la porte du thérapeute, c'est la dernière porte qu'ils poussent, et le sexologue également.
D'accord. Alors, l'érotisme, c'est une notion importante, voire primordiale, hein, dans la vie des hommes et des femmes. Est-ce qu'on peut la définir clairement, cette notion, puisqu'on ne parle pas d'un érotisme, mais des érotismes, justement, vous l'avez souligné dans le dossier d'IEG ?
Oui, je pense qu'on est en plein dans la notion de créativité humaine, parce que l'érotisme, ça demande d'être sujet, je pense. Donc déjà c'est tout un programme, c'est l'objet d'une thérapie, quelle que soit la demande, en général il s'agit de ça, hein, que le sujet advienne, qu'il émerge, et là qu'il puisse peut-être se reconnecter à l'enfant qui est en lui, hein, qu'il fasse enfin union avec l'enfant, la partie infantile et enfantine, et qu'il puisse jouer, parce que l'érotisme je pense que c'est savoir se définir des cadres de jeu. Et donc là, ben, votre imaginaire, votre éducation, ce que vous êtes, voilà. Donc le sujet va pouvoir s'exprimer et c'est pour ça qu'on peut dire qu'effectivement, il y a autant d'érotisme que de sujet, que de couple. Hein. Après, quand le couple élabore sa sexualité, eh bien, il peut jouer, quels que soient les registres. Voilà.
Vous insistez justement dans le dossier sur le jeu, J-E, et le jeu.
Ben voilà, J-E-U. Ça vient faire la synthèse, hein, le J-E, le sujet, et J-E-U, ben oui, savoir jouer. Ce que savent faire les enfants, hein, les enfants ne sont pas dans l'énergie génitale, hein, ils ne sont pas dans la génitalité, mais ils sont dans la sexualité et dans l'énergie sexuelle, hein. Freud l'a dit avant moi. Et donc, si vous regardez des enfants jouer, un petit garçon, une petite fille, et ben, vous avez tous les prémices de la sexualité, c'est-à-dire qu'ils y vont à fond, ils sont à fond dans leur jeu, hein, c'est très sérieux. On se définit des rôles, un cadre, et on est très excité. Le petit garçon marche sur la tête, et là, parce que la petite fille le fait marcher sur la tête, mais il est d'accord et complice, et tout le monde prend beaucoup de plaisir. Et là, on est dans l'excitation sexuelle.
Oui.
Les adultes ont à transposer ça dans la génitalité, hein, donc qui est la sphère adulte de la sexualité. Donc voilà, après, bah, tout peut se décliner, quelle que soit la fantaisie, les registres, bien évidemment. Il n'y a
aucune
limite.
Parce que les enfants, finalement, ils n'ont pas la pression des conventions sociales.
Mais non, ils sont vraiment dans le plaisir. Dans le plaisir, et il n'y a pas de limite. Hein. Et ils savent qu'ils jouent.
Oui.
Voilà ce qui est important dans l'érotisme, c'est que je peux jouer à tout, si je me l'autorise.
Et c'est une question d'éducation, on peut s'éduquer à l'érotisme ?
Alors je pense que oui, on peut, comment dirais-je, surtout travailler pour s'autoriser, s'ouvrir, être dans la complicité aussi de l'élaboration d'un couple. Hein. Donc là, la femme autorise l'homme autorise la femme. Hein. Comme disait Aragon, la femme fait l'homme et l'homme fait la femme, mais c'est bien vrai. Donc là, il y a toute une complexité, mais qui est très très riche à développer pour les couples.
Et on en parle beaucoup justement de l'érotisme maintenant, que ce soit dans les médias, au cinéma, enfin on en entend vraiment beaucoup parler, on est un petit peu martelé de cet érotisme. Et souvent on parle du rapport de la femme à l'érotisme, on oublie l'homme justement.
Je crois, on parle de la femme, mais je crois que c'est surtout la femme vue par l'homme, en tout cas un certain regard hein, qui est quand même un peu qui laisse à désirer, parce que justement qui manque de créativité, et ça vient stigmatiser la femme. Et souvent les femmes ont ce problème de vouloir correspondre à ce que les hommes attendent d'elles, ou en tout cas à ce qu'elles se disent que les hommes attendent d'elles, alors que finalement elles ont à se recentrer et à se connecter à elles-mêmes. Et là, en général, c'est très riche.
D'accord. Et alors, justement, dans le dossier, vous nous expliquez à un moment donc, que le sexe féminin est tourné à l'intérieur du corps, donc l'inverse de l'homme.
On n'est pas fait pareil, oui.
Voilà, et qu'en fait, chez la femme, ça peut créer des blocages quand la femme n'a pas été autorisée en fait, à découvrir son organe. Donc, on commence à en parler maintenant un petit peu du clitoris, du point G, vraiment de ce que le vagin détient, on va dire. Mm-hmm. Quelle est l'importance de la découverte et de l'exploration de son propre corps ?
Ah c'est capital, hein. C'est une manière d'être en relation avec soi, de grandir et de s'autoriser à se découvrir. Alors c'est vrai que oui, dans l'interview, dans le magazine, c'est ce que j'ai dit à un moment donné. Effectivement, hein, vous prenez une petite fille et un petit garçon, ils ne sont pas faits pareil. Le petit garçon, même s'il grandit sur le plan éducatif dans une famille un peu coinsouille, comme je dis, pour parler rapidement, il va quand même découvrir son sexe. Hein. Son sexe dépasse de son corps, donc il va un minimum jouer avec. Alors que la petite fille, son sexe est à l'intérieur de son corps, donc il faut qu'elle soit autorisée psychiquement à se découvrir, à introduire des objets en jouant dans son bain ou ailleurs. Donc c'est toute la notion d'intime, d'intimité et d'autorisation de m'approprier mon corps, d'être vraiment en relation avec mon intimité. Donc ça commence par là. Donc effectivement, on est dans l'éducatif, mais comme toujours, quels que soient les thèmes, on revient toujours à ça.
Et justement, maintenant, on en parle de plus en plus et on veut vraiment nous faire croire que l'érotisme s'est démocratisé. Même la masturbation, on commence à dire qu'on en brise le tabou, de la masturbation féminine, j'entends. Est-ce que, on en parlait tout à l'heure, le salon de l'érotisme, les sex shops, les réunions entre copines, est-ce que ça s'est vraiment démocratisé ?
Alors ça, je vais vous dire, je crois que je ne sais même pas quoi en penser, parce que je n'en sais rien, vraiment. Ce terme de démocratisation par rapport à tout ça, je crois qu'il y a beaucoup de commerce, et donc il y a beaucoup d'argent en jeu. Donc comme toujours, ça suscite de l'intérêt chez beaucoup de gens, mais je ne crois pas qu'au fond on parle d'érotisme et que les gens soient intéressés par l'érotisme.
Vous parlez également dans l'interview de libération des mœurs et du fait que les femmes dans les années 70 étaient peut-être finalement plus libérées que les femmes d'aujourd'hui.
Oui, je pense.
On en est où finalement ?
J'ai l'impression qu'en termes d'appropriation, de désir de s'approprier son corps, sa vie, d'avoir des projets personnels, d'épanouissement personnel, il y avait certainement quelque chose de plus souple, une pression sociale moins forte. Hein. Et puis là, en ce moment, on est quand même dans une période maussade, avec beaucoup de pression dans tous les sens. Donc, il faut être une bonne mère, il faut être une bonne amante, une bonne citoyenne. Enfin bon, je veux dire, les pressions vont dans tous les sens. Et ça laisse très peu d'espace pour que justement chaque sujet puisse être à son rythme, dans son épanouissement personnel, quel que soit le registre que ça va développer. Alors que dans les années 70, vraiment, je pense qu'il y a eu un moment tellement de libération. Il n'y avait pas le sida, donc c'était... Je pense qu'effectivement, les femmes ont eu un moment là de vraie liberté. Alors après... Il faudrait travailler avec des sociologues, des historiens pour.
Et savoir. Vous pensez qu'on vit un peu aujourd'hui dans une société de performance où on attend beaucoup des femmes ?
Ah ben oui, je pense, oui. Il y a beaucoup de pression, je pense. Oui.
Et l'image que les médias véhiculent, l'image du cinéma, quelle est-elle ? Quelle est sa place là-dedans ?
On est beaucoup dans un corps-objet, hein, donc on n'est pas dans un corps justement sujet. Hein, on ne fait pas l'amour avec une image, on fait l'amour avec son corps, avec son être, avec son âme. Donc voilà, les femmes sont très, je pense, victimes, entre guillemets, hein, bien sûr, de cette image de femme un peu parfaite quand même, hein, qui ne vieillit pas, sportive, au corps ferme, voilà, enfin magnifique en même temps en termes d'image sur le plan esthétique. Comme je dis toujours à mes patients, hein, vous regardez des scènes de cinéma, je ne parle pas de cinéma porno, hein, même des scènes très érotiques qui peuvent être très belles, mais on est dans l'esthétique. Voilà, dans l'esthétique de l'image, à ne pas confondre avec le vécu d'un être dans sa vie affective, émotionnelle et sexuelle. Ça n'a rien à voir.
Donc il faudrait une éducation justement pour que les gens puissent mieux analyser les images qu'ils reçoivent. Il faudrait éduquer...
Il faut une distance. Quand vous regardez une photo, vous ne regardez pas une personne. Vous n'avez pas la personne en face de vous. Vous avez une photo, donc vous avez tout un montage, toute une création, hein, de quelqu'un, d'un photographe, un éclairagiste, enfin voilà, un sujet, s'il y a un sujet sur la photo, mais... Vous n'êtes pas en présence d'une personne, ça n'a rien à voir.
On a du mal justement maintenant, enfin, en tant que femme, à poser notre désir entre guillemets, justement, quand on fait un rapport de ces images qu'on voit à notre propre image. Mm-hmm. Comment on fait un petit peu pour poser son désir? Parce qu'on a l'impression en fait qu'en ce moment il y a une confusion avec l'hypersexualisation des femmes. On nous dit que les femmes sont libérées et on a l'impression d'oublier complètement la notion de désir, de plaisir, de découverte et de jeu.
Exactement, ben oui, c'est tout le... C'est tout le hiatus, hein, entre tous ces thèmes, c'est-à-dire qu'effectivement, les femmes sont souvent très très prises par toutes ces images, hein, qui sont quand même... Il y en a partout, hein, dans la pub, le cinéma, les magazines. Bon, ça fait beaucoup de dégâts chez les jeunes filles. Hein. Moi, j'en vois beaucoup qui sont dans des problématiques alimentaires, qui se trouvent toujours... pas suffisante comme ceci, pas suffisante comme cela. Enfin bon, c'est très... Et puis, en même temps, on parle très peu, effectivement, d'épanouissement, de qu'est-ce que c'est, vous, en tant que femme, votre désir à vous, votre projet de vie, comment vous vous voyez, qu'est-ce que vous aimeriez faire, être, voilà. La place au rêve aussi, et puis... Non, tout est formaté, bon...
Vous parlez de sexualité déshumanisée, en fait, très technique, c'est l'effet pervers, en fait, de
tout... À fait.
Tout ce merchandising sexuel.
Oui, tout à fait.
Et alors, qu'est-ce que vous conseillez aux femmes, justement, qui peinent à se retrouver dans ces discours?
Disons que ça dépend, hein, c'est une question de degré. Quand il y a vraiment souffrance, moi j'invite vraiment les femmes à faire des démarches thérapeutiques, quelles qu'elles soient, pour essayer de se retrouver ou de se trouver, d'avoir un espace pour travailler sur elles, pour... faire la part des choses et puis travailler leur histoire, parce qu'en général, ce qui nous empêche d'advenir en tant qu'être, en tant que sujet, ce sont nos démons, nos fantômes qui viennent de notre histoire, et on a tous là certainement du travail à faire. Donc voilà, moi je peux que leur conseiller de trouver des espaces pour travailler sur elles, pour être en recherche et vraiment se connecter à elles-mêmes.
Est-ce que vous avez des lectures à conseiller aux auditrices et aux auditeurs, ou des films, des documentaires, des sources d'informations vraiment pour s'imprégner du sujet, en fait, pour essayer de comprendre comment on se décomplexe, comment on se dit que c'est pas sale finalement tout ça?
Écoutez, j'ai pas réfléchi, j'ai pas fait de liste, mais bon voilà, ce qui me vient directement en tête, là, je vais vous dire L'amant de Lady Chatterley, voilà, des très grands classiques. L'année dernière, j'ai vu un très beau film... il s'appelait Singh et Sabour, sur une femme en Afghanistan, un très beau film. Là, lundi dernier, je suis allée voir The Lunchbox, vous voyez, que j'ai trouvé très très beau, parce que justement ça parle de la relation, de tout ce qui peut se jouer dans une sensualité, dans une énergie très très fine entre un homme et une femme, enfin voilà. Mais les femmes savent très bien, je pense, si elles écoutent en elles, elles savent très très bien. Elles n'osent pas, mais elles savent tout, et leur corps sait tout.
C'est vraiment une question de dépasser les conventions sociales.
S'autoriser, voilà, oui. Je pense vraiment prendre sa place, s'épanouir. C'est pour ça qu'on peut avoir besoin d'un thérapeute pour aider à cet épanouissement, voilà.
Très bien, donc l'érotisme, ou plutôt les érotismes, on pourrait en parler pendant des heures. Mais bon, il y a un millier de choses à évoquer autour du sujet. Malheureusement, il faut poursuivre l'émission. Je vous rassure quand même, on continue de parler d'érotisme dans YEG Radio avec Marie Lelevier et Marie-Claire Boucherie-Carlier, après une pause musicale avec la reine de l'humour noir qui reprend Soyez pédé de Fontéval. Il s'agit évidemment de Guy Drey. Bonne écoute.
La meilleure méthode de contraception, c'est pas la pilule ou la capote, non. Pour freiner le flot de la natalité, il n'est qu'un remède, soyez pédé. Soyez donc lesbienne ou bien bisexuée. Et dites donc merde à la pharmacopée. Et dites donc merde à votre sens chrétien. Regardez vos enfants, c'est tous des mongoliens. On leur a foutu dans leur pauvre crâne qu'un couple idéal, c'est un homme, une femme. Il est temps de dire à nos écoliers, pour changer un peu, devenez PD. Ça n'empêche en rien d'aimer l'autre sexe. Il ne faut pas que ça devienne un complexe. Pas non plus d'ailleurs un titre de fierté. Roulons-nous des galoches en toute impunité. Foutez donc en l'air ce modèle classique du couple uniforme borné statique. Croisons nos pénis et que nos vagins autour du monde se donne la main. Y'a pas de phallocrate chez les escargots. Prenons des leçons chez nos frères animaux qui baissent en même temps qu'ils se font baiser pour attraper le temps qu'ils mettent à se rencontrer. Oh combien de mariages hétérosexuels se sont achevés dans des bris de vaisselle. Pour freiner le flot des mariages bâclés, il n'est qu'un remède, soyez pédés. Fini les divorces devant la justice, qui n'a pas à foutre son nez dans nos cuisses. Les repas de mariage et les parents heureux de voir que leurs enfants vont se faire chier comme eux. En tant que philosophe, je prétends que l'amour est une bien belle chose, et j'ajoute que pour endiguer les flots des culs refoulés, il n'est qu'un remède, soyez pédés. C'est contre nature, dit le dictionnaire. Ça ne l'est pas plus que la bombe nucléaire. La seule chose qui soit contre nature, c'est les cons qui nous empêchent d'aimer qui nous plaît.
Soyez pédé de Guidré, une chanteuse un peu particulière hein, qui aime jouer sur les contrastes et qui aime user et abuser d'humour noir. Malgré tout, la chanson hein, est pleine de bon sens. On vous conseille d'écouter d'ailleurs le dernier album de Guidré ou tout du moins d'en lire notre critique dans le numéro 22 de Yeg. Retour au thème de notre émission spéciale sur l'érotisme. On passe maintenant au rayon X, le marché des sex shops rennais. C'était super facile, je vous l'accorde. Marie, tu as rencontré pour Yeg Magazine deux femmes qui travaillent dans les sex shops à Rennes et dans ses environs.
Eh oui Marine, deux employées. L'une travaille chez Dorsel Store à Saint-Grégoire depuis 2 ans. L'autre est salariée dans un sex shop dans le centre-ville de Rennes depuis 28 ans. Cette dernière a d'ailleurs commencé par hasard dans le secteur, pensant qu'elle postulait au départ pour une place de vendeuse dans une librairie classique, alors qu'en fait il s'agissait d'une librairie érotique. Mais bon, ça lui a plu, elle a décidé de rester, ça fait quand même 28 ans. Toutes les deux ont un profil et une expérience donc différentes dans le marché du plaisir, mais côtoient au quotidien les consommateurs de sex toys, de lingerie coquine, de produits de charme et j'en passe. Des habitués et des gens de passage qu'elles écoutent et conseillent, des hommes et des femmes qu'elles accompagnent dans leurs achats en ayant la sensation pour la plus ancienne des deux, et là je cite ses propres mots, de découvrir ce que chaque individu a en lui et de lui apporter un certain mieux-être. Précisant qu'il y a donc du social dans son métier, en tout cas c'est sa vision. Dans ces magasins, toutes les classes sociales, tous les types d'âge et tous les types de statuts, célibataires, en couple, mariés ou non, sont représentés d'après le témoignage des deux femmes. Il n'y a pas donc de profil type, cependant l'intérêt des hommes et des femmes diffère sur quelques points. Moins maintenant, mais il y a une quinzaine d'années, les hommes étaient plus physiques et les femmes plus cérébrales dans leur manière de consommer, m'a expliqué donc la vendeuse du centre-ville. Les hommes étaient davantage attirés, même aujourd'hui, par les DVD, les femmes par la parfumerie ou la lingerie. Des propos nuancés par l'employé de Dorsel Store qui, elle, explique que les femmes ont en fait plus besoin d'un vrai scénario, d'une histoire au-delà du simple visuel pour être intéressées par les films X. Et qu'elles ont également, et c'est ce qu'elle a remarqué, une influence sur les achats de leurs compagnons. Elle les incite par exemple à acheter des accessoires particuliers qui plaisent aux deux partenaires, comme des menottes ou des fouets, tout en étant inspirées elles-mêmes par la littérature, comme par le best-seller Les 50 nuances de Grey de la britannique E.L. James, un livre érotique sur le sadomasochisme qui a eu un franc succès auprès des femmes. Les Rennaises, que cette femme qualifie de plutôt sophistiquées, attachées à l'esthétisme et exigeantes en termes de qualité, osent donc de plus en plus franchir les portes de sex shops, comme si la consommation de ce type d'articles s'était quand même démocratisée. La moitié des clients sont des femmes chez Dorcel Store, selon la salariée. Le marché semble donc avoir de l'avenir. Et d'après toujours l'employé de Dorcel Store, même si les gens n'ont pas un budget énorme, ils se laissent tenter car c'est un achat plaisir. En précisant que cela concerne tout le monde, puisqu'il n'y a pas de période dans la vie où les gens vont arrêter d'avoir en fait du plaisir. Voilà pour les sex shops. Et vous, j'avais envie de poser quand même une question à Marie et Claire Boucherie-Carlier. Que pensez-vous justement de ce type de marché ? Est-ce que vous pensez qu'il a de l'avenir ?
Alors là, de l'avenir, je pense que... Oh bah oui, il a de l'avenir, certainement. C'est un commerce porteur, hein. Effectivement. Les gens peuvent trouver de quoi jouer, des accessoires. Donc pourquoi pas, effectivement.
En tout cas, les points de vente se multiplient, hein. Même dans Rennes et ses environs, il y en a énormément.
Bah oui.
Donc on verra bien comment se portera le marché dans les années à venir.
C'est vrai. Et une dernière question pour conclure cette émission spéciale sur l'érotisme. Il y a une des deux vendeuses de sex shop du centre-ville qui explique donc qu'il y a une quinzaine d'années, les hommes étaient plus physiques et les femmes plus cérébrales. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, les hommes physiques, les femmes cérébrales, au niveau de la sexualité et de l'érotisme ?
Alors bon, ça, je dirais que ça c'est surtout au niveau du fantasme. Hein. Après, effectivement, peut-être que l'homme est plus dans quelque chose de pulsionnel, dans un accès direct, hein, en tout cas dans ce genre d'espace qu'ils viennent chercher. Effectivement, les vendeuses doivent en parler certainement très bien. Et puis les femmes, effectivement, j'ai entendu Marine parler de scénarii, d'histoire, et bien elles ont besoin effectivement plus de l'imaginaire, de se raconter quelque chose. Et puis la vendeuse qui disait peut-être qu'elle y avait une part sociale, je pense que surtout si les gens viennent et qu'ils peuvent parler, ça commence par ça. Hein, de pouvoir parler et d'avoir un échange avec quelqu'un, c'est fondamental, c'est un des besoins primordiaux chez l'humain et qui permet de s'élaborer. C'est toujours pareil, c'est ce qu'on fait aussi en thérapie, on parle du sujet.
Très bien, donc la communication, sensibilisation, éducation, on aura compris tout ça donc pour l'érotisme. L'émission se termine, je rappelle que vous pouvez suivre toute l'actualité rennaise au féminin sur yegmag.fr. Merci infiniment Marie-Claire Boucherie-Carlier d'être venue nous parler de votre métier de sexologue et de la notion d'érotisme.
Merci à toutes les deux, ce fut un vrai plaisir.
Merci, je remercie toute l'équipe de YEG Radio, Claude Lussault qui réalise cette émission. Marie Lelevier, journaliste pour YEG. Une semaine chargée, Marie.
Oula, oui, très chargée.
Mais... En demandant ça, j'ai l'impression que tu vas commencer la météo. C'est genre une semaine chargée, une semaine pluvieuse.
Ouais, pluvieuse, oui, très nuageuse.
En tout cas, c'est une idée à retenir. On vous fera bientôt la pluie et le beau temps. Ce sera pour la prochaine fois. Pour l'heure, on vous laisse en compagnie de Thomas Guézou et de votre émission Sur Écoute. Merci à toutes et à tous. On se retrouve dans YEG Radio la semaine prochaine. Même jour, même heure. Musique.